midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Mon invité s'appelle Farid Alilat. Bonjour et bienvenue Farid.
Bonjour.
Vous êtes journaliste. Vous avez travaillé longtemps à un journal qu'on aimait bien lire tous les jours, Liberté en Algérie.
Oui. Ouais, j'ai travaillé entre j'étais directeur de Liberté entre 2003 et 2004.
Mmh. On pense à ce journal.
Oui, j'ai une pensée pour les journalistes parce que selon les informations, c'est un journal qui va cesser de paraître dans quelques jours.
Mmh. C'est toujours triste quand un journal voilà qu'on a.
C'est toujours triste quand un journal ferme, mais c'est encore beaucoup plus triste quand on a travaillé dans ce journal.
Vous êtes là pour nous parler de Idir, un kabyle du monde aux éditions du Rocher qui sera publié d'ici quelques jours. Voilà,
le 6 avril.
Voilà, on le montre à la caméra puisque l'émission est filmée. Et comme disait Bourdieu, Idir n'est pas un chanteur comme les autres, c'est un membre de chaque famille.
Oui.
Pierre Bourdieu qui disait ça d'Idir.
Je crois que c'est une très belle formule qui résume un peu Idir. Dire c'est pas uniquement un chanteur, c'est pas uniquement un poète, c'est un membre de la famille, c'est-à-dire que les gens voient en lui comme une espèce de frère, comme grand frère, de père, et plus tard peut-être de grand-père. Donc il est rentré dans chaque foyer, on est devenu membre.
Et comme vous le dites, hein, il y a une part de Didier dans chacun de nous.
Oui, pour paraphraser un peu la chanson de Johnny Hallyday, il y a tous en nous quelque chose de
Tennessee,
de,
ouais.
Voilà, de Didier. Il y a une part de Didier en chacun de nous, dans chaque famille, parce que il a compté pour plusieurs générations. De Kabyle et d'Algérien, mais même aussi de Français et de personnes dans le monde.
Comment est-ce que vous avez fait pour écrire une biographie pour quelqu'un, sur quelqu'un d'aussi secret qu'Idir?
C'est le travail d'investigation et d'enquête du journaliste. C'est vrai que moi je connaissais Idir de par mon travail de journaliste, je l'avais rencontré à plusieurs reprises, je l'ai interviewé. Mais en décidant de faire cette biographie, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui est tellement connu par le grand public, mais qui est méconnu, en fait, parce que les gens connaissent les chansons d'Idir, mais ils connaissent pas Idir.
L'homme.
Ils connaissent pas l'homme, et c'est d'autant plus... C'est important que Idir, quelqu'un qui ne se confie pas, c'est quelqu'un de taiseux, quelqu'un de secret, qui ne s'est penché jamais sur sa vie privée, et c'est quelqu'un qui laissait dire et écrire des choses sur lui, parce que ça pouvait l'arranger. C'est quelqu'un aussi qui est pudique, comme j'ai dit, et c'est quelqu'un qui prenait parfois des libertés avec des épisodes de sa vie, parce que ça pouvait l'arranger. Voilà, donc c'est quelqu'un...
Un exemple d'épisode sur lesquels il a pris des libertés.
Par exemple, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il y a deux ou trois choses qui m'ont frappé, qui peut-être qu'il n'a jamais corrigé. Peut-être que bon, ça ne l'intéressait pas de les corriger. Il y a son âge.
Beaucoup... Ah, c'était un mystère à son âge.
Oui, beaucoup de gens écrivent que... Il est né en 49, il est mort en 70. Or, ce n'est pas du tout la vérité. Donc, il est né en 45, en octobre 45. Le fait qu'on dise, notamment dans la presse française, le fait qu'on dise qu'il est fils de paysan, alors qu'il n'est pas fils de paysan.
Fils de commerçant.
Voilà. Donc.
Fils de commerçant.
Oui, fils de commerçant. Fils de.
Commerçant qui avait bien réussi.
Oui. Famille, c'est une famille aisée. Très aisé même. Donc voilà. C'est quelqu'un qui ne se confiait pas, qui ne s'épanchait pas sur sa vie privée parce qu'il est comme ça, parce qu'il est taiseux, il est comme je dis, qu'il est pudique et parfois pour expédier des questions gênantes, parfois il utilise l'arme de l'humour
ou la dérision ou la métaphore.
Ou la métaphore.
Très utilisé chez les Kabyles. Voilà. Moi, je sais que je l'ai, pour l'avoir interviewé souvent, mais c'était pas pour parler de moi. Mais et pour avoir, je suis un docophage, donc j'ai énormément cherché les docs qu'il y avait à l'époque. Dans votre livre, j'ai appris énormément de choses. Et pourtant, ce sont des questions que je lui avais posées.
Alors moi, je vais vous expliquer d'abord, je vais expliquer la démarche de pour mon livre. Moi, je n'ai absolument rien lu de ce qui a été écrit sur Idir. Je ne voulais pas lire ce qui a été écrit sur Idir pour ne pas me faire influencer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je voulais absolument éviter ce que moi j'appelle les témoins de deuxième, troisième ou quatrième. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas vraiment connu Idir. C'est-à-dire je ne voulais pas qu'on m'appuie sur des... on m'a dit, il paraît, j'ai entendu, ça je ne voulais pas, absolument pas du tout de ça. Donc ma démarche c'était d'aller chercher des témoins de première main. C'est-à-dire la famille, les amis d'enfance.
Alors dans la famille qui?
La famille, sa famille, ses enfants, ses compagnes, parce qu'il a vécu avec trois femmes, ses cousins, ses cousines. Ensuite, je voulais discuter avec des musiciens qui ont travaillé avec lui, des producteurs, des directeurs artistiques, des amis qui l'ont, avec lesquels il a travaillé, enfin, il a vécu pendant son enfance en village ou sa jeunesse à Alger et aussi ici en France. Donc, j'ai interrogé une quarantaine de témoins, dont certains ne sont jamais exprimés. J'ai retrouvé...
Alors qui, par exemple?
J'ai retrouvé, par exemple, son premier producteur, Khalil, qui ne s'est jamais exprimé.
C'est Oasis Production.
Oasis Production.
Vous racontez dans votre livre un épisode peu connu sur la façon dont tout ça s'est réglé.
Oui.
Qui, lui, c'est l'artisan de son premier succès. Et finalement, quand il va arriver en France, Idir va changer de producteur.
Voilà, on va arriver là. Je vous dis, par exemple, j'ai pu interroger sa première épouse, Jamila, qui s'est jamais exprimée. J'ai pu interroger aussi la compagne de ses enfants, en fait, Iha, qui s'est jamais exprimée aussi. J'ai pu interroger Valérie Michelin, qui l'a amené à signer avec Sony, avec laquelle il a travaillé pendant 20 ans.
Qui est à l'origine de la rencontre avec Jean-Jacques Goldman.
Avec Jean-Jacques Goldman, avec Francis Cabrel, avec Charles Aznavour, avec la nouvelle génération du rap, etc. Qui était sa productrice, son manager, son ami, voilà. J'ai pu retrouver, par exemple, son directeur artistique avec lequel il a fait l'album de 99 Identités. J'ai interrogé son ami, musicien Tariq Etamou, qui ne se confie pas beaucoup. J'ai même...
Et Ben Mohamed, alors, vous l'avez...
Oui, j'ai interrogé Ben Mohamed avec lequel il a fait la chanson Ave Nova. J'ai interrogé sa fille, son fils...
Donc Tanina.
Tanina et Yanis. J'ai interrogé, par exemple,
pour vous parler, par exemple, des relations qu'il entretenait avec Matou Blounès, vous interrogez qui pour parler de ça? Pour parler de cette amitié qui les unissait et du rôle qu'Idir a joué?
J'ai interrogé, par exemple, un musicien, Agraou, Boujma Agraou, qui était à Azoua, les éditions Azoua.
Qui est les premières éditions que Idir va créer.
Qu'Idir a créé. J'avais interrogé un ami, un cousin, un ami d'Idir, Mezian Kedash, Bezzi, qui était inséparable avec Idir jusqu'à la mort. Donc, j'avais interrogé aussi Jean Musy, qui avait fait le premier album avec lui en 76.
Chez Loulou Gasté.
Voilà.
Le mari de Line Renaud. Voilà. Dans les studios de Loulou Gasté. Voilà.
J'ai interrogé aussi, j'ai interviewé longuement, à plusieurs reprises, Majid Bali, qui était
l'animateur de la chaîne 2.
Celui qui lui a mis presque le pied à l'étrier. Et j'ai retrouvé des traces. Quelqu'un qui est très, très, qui s'est jamais exprimé, bien sûr. C'est la fille de son grand-père, qui a à peu près aujourd'hui 100 ans. N'avouez-vous.
Donc, qui doit être sa tante.
Oui.
Oui.
Voilà. Qui est l'un des rares,
La fille de Dahamou.
Voilà, Dahamou, c'est le grand-père. L'un des rares survivants de cette époque. Ce sont ses cousins, sa cousine. Voilà, une quarantaine de témoins. Je les remercie d'ailleurs pour leur confiance. Et puis, il n'y a pas que les témoins.
Alors, on va illustrer cette émission avec des chansons qui viennent de votre livre. Là, c'est un duo avec Matou Blounès. C'est issu et extrait du premier album de Matou Blounès en 1978. Et le duo s'appelle
Is. Et je raconterai après, si vous voulez, l'anecdote.
Le lion.
Le lion.
أتابيض إني كاد يبسي شفاض سور فناك تغليظ نقرى ولاد تشيط سور فناك تغليظ نقرى ولاد تشيط قف عرورك في ست الشوق يلو صناك سرن مروانك تشن يلو صناك سرن مروانك تشن.
Alors tout à l'heure, après la pub, Farid Abilal, vous nous expliquerez l'histoire de ce tube, une chanson sur un disque qui a été édité par Idir. Hein, on parlait des éditions.
As well. Il était directeur artistique sur cet album.
Bon, on en parle dans un instant. C'est le Book Club de Farid Alila.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM avec aujourd'hui Farid Alilat qui vient de parler de cette biographie Idir, un kabyle du monde qui sort dans quelques jours aux éditions du Rocher. On vient d'écouter une chanson extraite du premier album de Matoub Lounès. Comment est-ce que Matoub rencontre Idir?
Alors Matoub, avant d'arriver en France, était déjà un grand admirateur d'Idir. Donc, en 78, il arrive en France avec l'idée de faire un album. Donc, il arrive dans le 18e, il sait que Idir tient un restaurant, l'Auberge du Méchoui, dans le 18e.
Alors ça, tout le monde ne sait pas qu'il a été à un moment donné restaurateur. Il a investi.
Il avait investi avec un associé,
Saïd,
dans ce restaurant et aussi dans la maison d'édition, Azouaoui Édition. Donc, l'Auberge du Méchoui, c'était le quartier général d'Idir. C'est là où il y allait, il recevait des gens, il discutait les gens. En même temps, il est aussi directeur artistique de Azouaoui Édition. Donc, Matoub arrive à Paris, il va à l'Auberge du Méchoui, il rencontre Idir. Donc, il lui fait écouter la cassette où il a déjà enregistré les maquettes de son premier album et tout de suite Idir a été séduit par la voix de Matou par sa personnalité, parce que c'est quelqu'un de très très corché vif, quelqu'un de entier, quelqu'un de fougueux, de flamboyant. Donc il a tout de suite accepté de produire le premier album, et donc ils vont au studio et Idir décide de chanter en duo avec Matoub sur la chanson qu'on vient d'écouter. Et bien sûr, il a produit le premier album, et c'est là où est née l'amitié indéfectible entre Lounès Matoub et Idir. Ce sont deux personnalités qui sont totalement aux antipodes. Idir, c'est quelqu'un de très calme, très réservé, comme je dis, quelqu'un de très taiseux, très pudique. Au contraire, Matoub, c'est, voilà, comme je dis, c'est quelqu'un de entier, de flamboyant, parce que tête brûlée, quoi. Mais ce sont deux personnalités qui se sont retrouvées, sont devenues vraiment très très attachantes. C'était comme des frères. Mais bien sûr, il y avait chacun exprimé ses idées, sa façon. Mais ils avaient en commun justement ce combat pour la reconnaissance de la langue kabyle, de l'identité et du patrimoine berbère. C'est ça qui, au-delà de l'amitié, ils avaient ça en commun.
Alors, dans votre livre, vous racontez l'enfance d'Idir, mais vous remontez même avant, puisqu'on parlait du grand-père, mais voilà, vous êtes remonté dans la généalogie. Une enfance, et on l'oublie, mais Idir est un enfant de la guerre de libération, la guerre d'Algérie. Il sera marqué par plusieurs événements dont il parlera peu en interview plus tard.
Alors, moi, dans mon livre, je voulais remonter l'histoire à une période, même la période ottomane, de l'époque de la régence d'Alger, parce que c'est important. La région de Beni Yani et Tiani était une région connue pour être des fabricants de fausses monnaies, des armuriers, des bijoutiers, et dont d'ailleurs sa famille était des armuriers, des fabricants de bijoux. Pendant la régence d'Alger, la région de Beni Yani était connue pour fabriquer de la fausse monnaie. Ils avaient des moules pour fabriquer ces fausses monnaies qu'ils faisaient écouler à Alger. Donc ça gênait énormément la région, si bien que ils leur ont demandé en échange de leur remettre les moules, de leur donner des terres dans la Métidja. Et les gens de Beni Yani leur ont dit, comme avec une espèce de boutade, on accepte de venir nous installer à la Métidja à condition qu'on ramène avec nous les montagnes de Djurdjura, de façon très 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 subtile de refuser. Ensuite, il y a eu l'épisode de la conquête de la Kabylie, la fameuse bataille des Charédans en 1857, où le général Rondon a soumis les tribus kabyles. Il a planté sa tente pour recevoir la soumission des populations de la Kabylie, et donc de la région de Séné notamment. Il a planté sa tente dans le village de Tlassen, qui est
le village d'Idir.
Le village d'Idir. Et des années plus tard, enfin pas des années, deux siècles plus tard, le grand-père d'Idir, avec ses enfants, donc le père d'Idir, décide de construire la grande maison familiale, ouais, à l'endroit presque même où le général Rondon a planté sa tente.
Ça ne s'invente pas. Et dans cette maison, Dahamou avait réuni toute sa famille, en fait.
Enfin, c'est une grande famille parce qu'il a, ses deux enfants, il a ses filles, et donc il vivait dans la maison du village, maison traditionnelle. Ensuite, quand Idir est né en 45 et la famille commençait à s'agrandir, donc la maison devenait un peu petite. Donc il fallait construire une nouvelle maison. Et donc, ils ont construit une grande maison, la plus belle maison du village, parce que, encore une fois, c'est une famille aisée, c'est des familles de commerçants, d'armuriers. Et ils avaient ouvert un local, enfin, ils avaient ouvert un magasin de vente de bijoux et d'objets traditionnels qui s'appelle au musée de Bagdad, qui est situé juste à côté de l'hôtel Aliti. Et donc voilà, c'est une famille aisée.
L'hôtel Aliti, parce que si l'hôtel Saint-Georges existe toujours aujourd'hui, El Jazeera, l'Aliti est en train d'être fait. Donc, voilà. Mais c'était un des plus luxueux hôtels de...
L'Aliti, à l'époque où ce magasin a été ouvert, c'était presque le palace d'Alger. C'est un hôtel qui a été inauguré aussi en présence de Charlie Chaplin.
C'est une légende.
Si, il y a été.
Non, il y était après. Pas pour l'inauguration.
J'ai retrouvé des photos. Il a séjourné. Josephine Baker a séjourné là-bas. Bon, beaucoup de personnalités. John Steinbeck a séjourné là-bas. Frank Capa a séjourné là-bas. Donc voilà.
C'était l'hôtel fréquenté par les stars du monde entier.
Voilà. Donc. Dehmou, le grand-père Linir, décide avec ses deux enfants de construire cette maison. C'est la plus belle maison de Luc. Ils avaient l'eau courante, ce qui était absolument possible à l'époque. Ils avaient l'eau courante, ils avaient un téléphone, ils avaient un poste radio, ils avaient une bibliothèque. Voilà. C'est une très grande, très, très grande maison.
On va écouter une deuxième chanson qui s'appelle Helmut. On est d'accord sur la prononciation?
La mort. Helmut.
Pourquoi? Parce qu'elle parle de son père et d'un épisode particulier sur la vie de son père dont il parlait assez peu. Hein. Donc on en parlera après.
Après. غفر وفاية ما أولادي وان ما تشيت تزوذا شي ما نروح يا مكل واثد يسوس في ما
Farid Adiat, on racontera ce que dit cette chanson dans un instant. C'est le Book Club de Farid Alila qui publie Idir, un kabyle du monde. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le journaliste Farid Alila est avec nous. Il publie une biographie d'Idir, Idir, un kabyle du monde aux éditions du Rocher. On vient d'écouter une chanson avant la pause, Farid, c'est une chanson sur son père. Que raconte cette chanson?
Alors, c'est une chanson qui est extraite de son deuxième album qui est sorti en 79, intitulé La mort, le Mout. Pour l'anecdote, c'est une chanson qui n'a jamais, jamais interprété sur scène. Parce que c'est une chanson tellement poignante que il ne pouvait pas la restituer, restituer l'émotion sur scène. On entend dans la chanson, on entend à un moment donné les cris, les lamentations des mères, des femmes, la dépouille sort de la maison pour aller être enterrée, parce qu'à l'époque, jusqu'à présent aussi, les femmes n'assistaient pas aux enterrements. Donc, Idir ne l'a jamais chanté sur scène parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas restituer l'émotion de cette chanson. Alors, c'est une chanson qui parle, sans le mentionner, il y a deux événements qui l'ont marqué et qui ont façonné cette chanson. D'abord, c'est la mort de son père. Son père est mort en janvier 70 d'une crise cardiaque. Et le jour où son père est décédé, il revenait de l'université, donc il va dans l'immeuble d'Yar Saada où ils ont l'appartement, où ils trouvent des gens
à Alger. À un moment donné,
Alger. Donc ils trouvent des gens de son village au pas de l'immeuble. Donc ils se demandent qu'est-ce qui se passe. C'est là où il a annoncé que son père est mort. C'est quelque chose qu'il a marqué. Donc, il a commencé à rédiger l'ébauche de cette chanson. Et ensuite, le deuxième événement, ce sont les jeunes soldats du village de la Seine et de la région de qui sont morts dans la bataille d'Amgala entre l'Algérie et le Maroc en 76. Et si mes souvenirs sont bons, il y a eu 3 ou 4 jeunes du village qui sont morts. Donc, ils sont morts pendant les combats, dans le désert. Et donc, on a ramené le cercueil plombé. On n'a pas autorisé les familles à ouvrir les cercueils. Et ça, c'est quelque chose aussi. La mort de ces jeunes appelés l'a marqué. Donc, ce sont deux événements qui ont façonné le texte de cette chanson. Et son père est quelqu'un de aussi comme lui, quelqu'un de pudique, de taiseux. Son père a vécu un événement tragique dont il ne s'est jamais épanché. Et même il dit
Pendant la guerre d'Algérie,
pendant la bataille d'Alger, en février 57, son père et son oncle sont arrêtés dans le magasin au musée de Bagdad. Ils sont arrêtés par les paras parce qu'ils soupçonnaient le magasin d'être un refuge dépôt d'armes, refuge de militants du FLN. Et donc, son père a été amené dans un centre d'interrogatoire, probablement torturé, parce que à l'époque, on faisait des rafles par centaines, par milliers de personnes, et on les mettait dans des centres de tri d'interrogatoire, en attendant soit de les mettre en prison, ou de les liquider, ou de les envoyer dans des camps d'internement. Et donc, son père a été détenu dans un camp d'internement qui s'appelle le camp Paul Cazel, qui est situé à Enoussara, c'est presque à les limites du désert. On surnommait le camp de la mort parce que beaucoup ne revenaient pas. Et c'est un camp qui avait servi dans les années 40, pendant la France de Vichy, à interner des militants communistes, des opposants au régime de Vichy. Donc, son père a passé quelque chose comme 3 mois dans ce camp avant d'être libéré. Et c'était un épisode qui l'avait traumatisé.
On va écouter une curiosité que je ne connaissais pas et que j'ai découvert dans votre livre. On en écoute juste un extrait. Hein. C'est juste pour... comme ça.
Les loups de la vie me guettent, éveille-nous-va.
J'ai si peur pour toi, ma fille, mais la porte n'ouvre pas.
Pour l'anecdote, il s'agit de Dominique et David. La chanson s'appelle « Ouvre-moi vite la porte ». Il faut savoir que l'adaptation en français d'Aï Vava et Nova est presque arrivée avant la version originale. Il y a eu du succès.
Oui, en fait, j'ai pu discuter avec Dominique.
Qui est toujours vivante. Hein.
Oui, j'ai pu discuter avec Dominique pour qu'elle me raconte l'histoire de cette adaptation en français. En fait, le duo David et Dominique, un duo à l'époque connu en France... Ouais. Part en Algérie en début 75, donc ils font une tournée et un jour ils chantent, ils se produisent à Tizi Ouzou en Kabylie et à la fin du spectacle ils demandent si quelqu'un voulait monter sur scène pour chanter et donc quelqu'un est monté sur scène pour chanter Réveille Nouva, le tube de Eddie, celui qui l'a révélé au monde,
qui était sorti deux ans auparavant, sorti
en 73, ouais. En 45 tours. Et donc, ils étaient séduits, subjugués par cette chanson. Donc, ils ont décidé d'en faire une adaptation. Et qui a eu beaucoup de succès en France, à l'été 75. Ils ont vendu quelque chose comme 100 000 exemplaires de ce... Mais Edir n'était pas du tout content de cette adaptation.
De l'adaptation.
Bon, parce que ça a dénaturé un peu le texte originel. Mais bon, il n'en a pas fait des tonnes. Voilà. C'est une chanson qu'il a lancée en France.
Edir, c'est l'histoire d'un chanteur qui n'aurait pas dû être chanteur finalement. Qui a eu du succès en dépit de son plein gré, les événements et les bonnes fées se sont penchés sur lui. C'est vrai que c'est une succession de hasards quand même incroyable.
Alors
si on prend l'histoire de la chaîne 2, de la fameuse émission de la chaîne 2.
Alors, et bien sûr, féru de musique. Depuis son enfance, depuis qu'il était petit, il jouait du tambour, il jouait de la flûte, il jouait de la guitare.
Il y avait un piano chez lui.
Il y avait un piano chez lui. Son père lui a acheté un piano 63, un piano blanc.
D'ailleurs, sur le tambour, vous présentez un personnage qui est très important pour la carrière.
On va revenir à Moumha, le fameux forgeron.
Incroyable. Il est vivant, hein?
Non, il est mort.
Il est mort?
Il est mort. Alors je vais raconter l'histoire de Moumha avant de venir. Moumha est le forgeron du village de Tlassen et en même temps il jouait du tambour, du tambour dans Irbelen, c'est les troupes traditionnelles. Et dans l'atelier de Moumha, qui était pas très loin de la maison d'Idir, donc quand Moumha tapait le marteau sur l'enclume, il battait le fer, il le battait comme un batteur, il rythmait. Donc c'est quelque chose qui a marqué et dire ces rythmes, tac tac, c'est quelque chose qu'il a marqué. Il allait souvent voir Moumha, admirer sa façon de forger le fer, parce que il le forgeait comme un musicien. C'était pas simplement un forgeron, mais un musicien. Il avait l'art de taper. C'était un batteur, presque un batteur. Et en même temps aussi, il jouait du tambour. Et donc, ça a marqué, un peu la formation musicale d'Edir, parce que Edir joue beaucoup. C'est un très très bon joueur de bendir, parce que ça l'a marqué. Et ça l'a tellement marqué que quand il avait fait l'émission avec Johnny Clegg pour une télévision française, si mes souvenirs sont bons, en 1993 ou 94, il a filmé Moumha. Il tenait à présenter à Johnny Clegg Moumha pour marquer son respect et son admiration pour ce personnage. Ça, c'est pour Moumha.
Pour la fameuse émission de la chaîne 2. Émission.
Donc, étudiant, il jouait de la guitare, il composait, mais il chantait jamais. Parce qu'il aimait pas sa voix. Surtout aussi, il ne voulait pas qu'on sache, que sa famille sache qu'il chante. sa mère savait qu'il jouait de la guitare, jouait des instruments, il jouait devant sa mère, mais jamais devant son père. D'abord, chanter pour un garçon qui chantait, c'était parce qu'à l'époque c'était quelque chose de tabou. Et ensuite, ses parents voulaient absolument qu'il fasse des études supérieures pour qu'il devienne soit comme ses deux frères, soit comme médecin ou ingénieur. Lui, il s'est inscrit en géologie, en licence de géologie. À l'université d'Alger, mais ça l'empêchait pas aussi de jouer. Et donc, en 73, avril 73, il y avait cette fameuse émission de Abdelmajid Bali, Khamsa Ougour, qui passait une espèce de
radio. Alors, en français, ça donne?
Les cinq zéniques. Donc, espèce de télécrochet où on faisait des jeux, maintenant, les artistes venaient jouer en live. Et ce soir-là, Idir devait accompagner la chanteuse Nouara sur la chanson qu'il lui a composée, qui s'appelle Ersedars Dayedas. Et donc, peu de temps avant le début du direct, Nouara se décommande parce qu'elle était malade. Et donc, le producteur et l'animateur Majid se retrouvent devant un vide. Il faut absolument que quelqu'un chante parce que c'est du direct, c'est pas du différé. Donc, ils sont venus voir Idir, qui était assis sagement sur une chaise avec sa guitare.
Qui devait l'accompagner, de toute façon.
Il devait l'accompagner, la guitare. Donc, il ne devait absolument pas chanter.
Ouais.
Donc, ils sont venus Idir, c'est toi qui vas chanter. Idir, à l'époque, il ne s'appelait pas Idir, il s'appelait Hamid Sariyat.
D'ailleurs, vous expliquez qu'on ne sait jamais, toujours pas aujourd'hui, à qui revient la paternité d'Idir.
Je vais venir. Donc... l'animateur et le producteur disent à Idir, c'est toi qui vas chanter. Et Idir, il dit, mais pas question. Jamais, moi, je vais chanter en direct. Mais non, c'est toi qui vas chanter. Et il dit, non, jamais. Ils vont me reconnaître. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ma mère, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ma mère, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, c'est toi qui vas chanter. Eh ben, comment on va faire? Eh ben, tu vas prendre un pseudonyme. Et on sait pas. Aujourd'hui, moi, j'ai interrogé Majid Bali. Il y avait trois dans le studio. Il y avait Idir, il y avait, si ma mémoire est bonne, c'est Arsky Nebti, producteur, et Idir. Et j'ai interrogé Majid, je lui ai dit, Majid, qui a trouvé le nom d'Idir? Il m'a dit, je ne peux pas te dire avec exactitude, toujours est-il que il décide à trois de prendre le nom de Idir. Idir qui veut dire en kabyle vivra ou vivant, va vivre. Mm. Et donc, il passe en direct, il avait le track, il aura toujours le track jusqu'à sa mort.
Et de plus en plus.
Et là, il passe en direct. Ensuite, c'est un succès immédiat. Il rentre tout de suite après, juste après l'émission, il rentre chez lui à la maison.
Et sa mère a écouté, et la suite est dans...
Dans le livre.
Dans le livre. Ça a passé vite, hein, Farid. On fera une autre émission, je vous promets. Ouais. Idir, un kabyle du monde, aux éditions du Rocher. Beaucoup, beaucoup de d'informations, d'anecdotes, voilà, les coulisses de la vie d'Idir. J'ai repensé à Chérif Redam, vous voyez, en lisant votre, ouais, très important dans les débuts de la carrière d'Idir.
Ouais.
En tout cas, voilà, il sort dans quelques jours. Vous réécouterez l'émission en podcast sur BeurreFM.net.
Il sort le 6 avril.
Voilà, et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci.
Merci.
Voilà, oui. Et passez un très bon dimanche sur Beurre FM.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.